Telle sont l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci de votre fidélité. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous dresserons ensemble un état des lieux des universités en Afrique. Vous êtes déjà nombreux au standard et sur les réseaux sociaux pour témoigner de vos conditions de travail, de vos conditions de vie dans les universités sur le continent africain. On en parle ce matin avec en toile de fond les mouvements de grève qui paralysent régulièrement les campus universitaires, de Niamey à Abidjan, en passant par N'Djamena, Dakar ou Lomé, pour ne citer que ces universités. Eh bien, ces derniers mois, les étudiants sont montés au créneau pour dénoncer leurs conditions de travail. Alors, certains exigent davantage d'enseignants et de nouvelles infrastructures. D'autres réclament le versement régulier de leurs bourses, plus de bus pour leur transport, une meilleure restauration dans les facultés ou encore l'électrification des artères sur le campus. C'est le cas par exemple à Lomé. Alors que vous inspirent toutes ces revendications? Vous êtes enseignant, vous êtes étudiant, appelez-nous. On a envie de vous entendre sur votre vie quotidienne dans les, sur les campus universitaires. 33 9 693 693 70. 33 9 693 693 70. La page Facebook de l'émission, évidemment, la page officielle RFI. Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les matins, à cette heure-ci, ce sont vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter tous les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Des questions ce matin concernant Dilma Rousseff. Vous savez que la présidente du Brésil fait l'objet d'une procédure de destitution. Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service international d'RFI. Vous suivez cette crise politique majeure qui secoue le Brésil depuis maintenant plusieurs semaines. Crise qui n'est pas prête de se terminer. Melchior, nous l'accueillons. On est ravis de l'avoir au téléphone. Il nous appelle de Brazzaville. Bonjour Melchior.
Oui, bonjour Monsieur Gomez.
Bienvenue, on vous écoute.
Oui, j'aimerais comprendre comment se fait-il que les députés brésiliens aient voté la destitution de la présidente Rousseff alors qu'elle ne fait face à aucune condamnation juridique, en fait, judiciaire plutôt. Mmh. Et dans la mesure où elle se plaint d'être victime d'un complot, donc, quelle serait la probabilité qu'elle en soit victime, justement?
Elle parle de complot, elle parle même de coup d'État politique. Arim Lipold, on rappelle juste les scores du vote de dimanche dernier. Il fallait le vote de 342 députés hein, pour engager la procédure. 367 ont voté pour, 137 contre. Pourtant, notre auditeur a raison, à cette heure-ci, Dilma Rousseff n'a pas été jugée coupable.
Oui, exactement. En fait, on est au début hein, d'un long processus, comme vous l'avez dit vous-même, Juan. Il faut bien comprendre, en fait, que pour l'instant, effectivement, elle n'est pas coupable, elle n'est pas encore jugée coupable. Et puis, ça sera à la fin de ce processus pendant lequel le Sénat doit se prononcer, il va rentrer en jeu dans quelques semaines, où elle serait éventuellement jugée coupable ou non. Alors, peut-être pour bien comprendre, j'ai envie de revenir un petit peu sur cette procédure, en fait, parce que c'est un peu compliqué. C'est même pour les Brésiliens, en fait, c'est très compliqué de comprendre. Alors, sur quoi elle porte, en fait, cette procédure? Alors, en fait, l'acte de destitution a été rédigé par 3 juristes. Et il faut savoir que l'année dernière, en fait, le Parlement a reçu 37 demandes de destitution contre Dilma Rousseff, 37. Ouais. Et le président de la Chambre des députés en a choisi une seule, donc cet acte de destitution rédigé par 3 juristes. Alors, qu'est-ce qu'il reproche à Dilma Rousseff? Il reproche qu'elle aurait maquillé des comptes publics en 2014. C'est ce qu'on appelle des pedaladas en portugais, des pédalages fiscaux, ouais. En fait, quand on veut dire. Et puis, selon l'opposition, selon les instigateurs de la demande de destitution, c'est un crime de responsabilité. Alors, c'est un terme juridique typiquement brésilien. Je sais que ça veut rien dire en français, crime de responsabilité. Tout le monde se demande qu'est-ce que ça veut dire. Eh bien, c'est en fait une irresponsabilité en matière budgétaire, en matière fiscale. Mmh. Et selon la constitution brésilienne, eh bien, crime de responsabilité, ça peut être un motif pour une demande de destitution.
Alors, ce qui est important de rappeler tout de même et de préciser, c'est que le tribunal des comptes de l'Union fédérale du Brésil dit oui, il y a bel et bien eu un maquillage des comptes en 2014, mais, et c'est important de le préciser, le tribunal dit les preuves d'une implication directe de la présidente sont moins évidentes. Pour l'instant, le Brésil est suspendu au vote du Sénat, qui aura lieu dans 3 semaines, théoriquement. Si les sénateurs donnent leur feu vert pour la mise en accusation de la présidente, et il y a de fortes chances qu'ils le fassent, c'est à ce moment-là qu'une enquête sera ouverte.
Exactement. Ce sera à un moment-là qu'une enquête sera ouverte et un procès. Et puis, c'est la Cour suprême qui saisira du coup le dossier et qui va piloter l'enquête et le procès. Le procès auquel les sénateurs peuvent assister. Alors, pendant cette période de 180 jours, de 6 mois, effectivement, Dilma Rousseff serait écarté du pouvoir, c'est le vice-président Michel Temer qui prendrait sa place, et les sénateurs, ils auront donc tout loisir d'écouter la défense, l'accusation pendant tous ces mois, et puis à la fin, ils se réunissent à nouveau en séance plénière, et ils doivent décider à une majorité des 2/3 si ils jugent Dilma Rousseff coupable ou non d'avoir commis des crimes de responsabilité. Alors, il faut savoir aussi que les maquillages budgétaires, c'est une pratique courante.
Tous les prédécesseurs,
Lula l'a fait, Enrique Cardoso l'avait fait. Et au niveau régional, dans les États, en fait, dans les 26 États aussi, c'est une pratique très courante.
Pratique courante, mais illégale tout de même.
Illégale, tolérée ouais. par tout le monde, parce que tout le monde... On usait et abusé.
Peut-on parler de coup d'État politique, comme l'affirme Dilma Rousseff?
Alors ça, c'est effectivement l'argument clé de Dilma Rousseff et du Parti des Travailleurs, hein, sa formation. Alors, elle s'estime victime d'un coup d'État parce qu'elle n'estime pas d'avoir commis un crime de responsabilité. Alors, pour elle, c'est un coup politique monté par l'opposition pour l'écarter du pouvoir, pour finalement faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire lors des dernières élections en 2014. Donc, ne pas l'écarter du pouvoir via les urnes, mais via cette procédure d'impeachment.
Et ce qui est intéressant de souligner, Arem Lipol, c'est que dimanche dernier, au moment du vote des députés, les Brésiliens étaient dans la rue. Il y avait les pros Dilma Rousseff et les anti-Dilma Rousseff. Mais même au sein des anti-Dilma Rousseff, certains veulent effectivement son départ, mais disent « attention, il faut préserver la démocratie brésilienne ».
Oui, exactement. En fait, c'est pas forcément les amis de Dilma Rousseff qui sont descendus dans la rue. Ce qu'ils craignent, en fait, c'est que ça crée un dangereux précédent, que désormais, en fait, n'importe quel président accusé de mauvaise gestion budgétaire ou économique soit victime d'une procédure d'impeachment, ce qui provoquerait, bien sûr, une instabilité incroyable dans ce géant d'Amérique latine.
On repasse au standard à Arem Lipol avec Étienne, qui nous appelle de Lomé. Bonjour, Étienne.
Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Nous vous écoutons.
Ok. Toujours par rapport à ce vote en faveur de la procédure de Dilma Rousseff, j'aimerais savoir si le vice-président Michel Temer peut diriger le pays jusqu'à l'organisation de nouvelles élections.
Alors, Michel Temer, vous en parliez tout à l'heure à Arem Lipol, il est le vice-président du Brésil. Théoriquement, c'est lui qui devrait prendre le pouvoir si Dilma Rousseff est écartée. En tout cas, lui, ce qui est sûr, c'est qu'il rêve. Il rêve de prendre la place de Dilma Rousseff.
Il ne rêve que de ça.
Jour et nuit.
Tous les jours, en se rasant, je pense, tous les matins. Il ne rêve que de ça. Et effectivement, il est assez proche de son but, si je peux dire, parce que le Sénat va probablement voter pour la procédure des destitutions. À ce moment-là, Dilma Rousseff, comme on l'avait dit tout à l'heure, ça a écarté le pouvoir et Michel Temer assumerait ses fonctions, les fonctions du président. Et puis, si le Sénat vote définitivement la destitution de Dilma Rousseff, eh bien, Michel Temer prendrait carrément la fonction du président jusqu'au terme du mandat officiel de Dilma Rousseff, c'est-à-dire jusqu'en 2018. Mais puisque Étienne parlait des élections, en fait, il faut savoir que Michel Temer est très impopulaire, encore plus impopulaire que Dilma Rousseff. Il ne gagnerait jamais une élection parce que les intentions, enfin les sondages lui donnent entre 2 et 3% d'intention de vote.
Ouais, effectivement, Dilma Rousseff qui accuse d'ailleurs Michel Temer d'être le chef des conspirateurs, ce serait lui finalement qui tire les ficelles de toute cette affaire. Et on dit, alors évidemment, bon, la presse brésilienne fait état de nombreuses rumeurs, mais on dit qu'il est déjà en train de travailler en coulisses pour former un gouvernement.
Alors, il est déjà en train de former effectivement un gouvernement et il a commis une énorme gaffe. Aujourd'hui, on se demande peut-être c'était une gaffe, enfin, c'était vraiment son intention d'avoir fuité il y a quelques jours avant le vote dans la Chambre des députés son discours de victoire il se prononçait déjà pour un gouvernement d'unité nationale.
Donc son discours est déjà écrit.
Il est déjà enregistré et envoyé par fichier MP3 à tous les députés de son parti.
Énorme boulette. Peut-être avec des intentions aussi stratégiques derrière. Signalons quand même, puisqu'on parle de Michel Temer et on va terminer là-dessus, c'est que comble tout de même, son nom est cité dans plusieurs affaires, dans plusieurs scandales de corruption, ce qui n'est pas le cas, il faut le préciser, pour Dilma Rousseff à ce jour.
Oui, et je pense que c'est aussi, il faut comprendre que Dilma Rousseff vraiment sent cette injustice, cette incroyable injustice, comme l'a dit un journaliste brésilien, elle a le sentiment d'être jugée par une bande de voleurs, alors qu'elle-même n'a jamais volé quoi que ce soit.
Merci beaucoup, Harim Lippold, d'être venu ce matin répondre à quelques questions sur le Brésil et sur la destitution, le processus de destitution de Dilma Rousseff. Il est 10h21 à Paris. Vous êtes à Bangui, vous nous écoutez en ce moment en Centrafrique. Tendez l'oreille, nous serons très prochainement chez vous. Et oui, on va se déplacer dans la capitale centrafricaine pour l'enregistrement de deux émissions en public. Notre premier débat, qui sera enregistré le samedi 30 avril, sera consacré à la réconciliation nationale après 3 années de violences intercommunautaires. Et notez bien ce rendez-vous exceptionnel, l'enregistrement d'une émission avec le président Faustin Archange Touadéra. Il a été investi il y a 3 semaines et il a accepté notre invitation de débattre avec vous qui êtes à Bangui, avec les auditeurs d'RFI à Bangui. Une émission qui sera donc enregistrée le lundi 2 mai. On parlera des défis qui attendent le nouveau président élu. Donc notez sur vos agendas, appel sur l'actualité à Bangui, le 30 avril et le 2 mai, et nous serons à l'Alliance française. J'espère que vous serez très nombreux au rendez-vous. On continue donc avec vos questions à la rédaction. Nous accueillons Idriss, qui nous appelle de Côte d'Ivoire. Bonjour Idriss.
Bonjour Juan, bonjour à Paul Khalife depuis Beyrouth au Liban, et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Alors Paul Khalife, qui est notre correspondant effectivement au Liban, s'il nous écoute évidemment, nous le saluons. Vous avez des questions concernant Djibouti et ses relations pour le moins étroites avec la Chine?
Oui, effectivement. La Chine a ouvert une base navale dans la Corne de l'Afrique, notamment à Djibouti, capable d'accueillir 10 000 soldats. Alors j'aimerais savoir, quel est l'intérêt de Pékin et qu'est-ce que la Chine a gagné en installant militairement dans cette région? Ensuite, j'aimerais savoir comment l'arrivée des Chinois dans la Corne de l'Afrique est aperçue par les États-Unis et la France qui sont présents militairement dans cette région depuis plusieurs années.
Effectivement, ce sont de très très bonnes questions. C'est une première. La Chine construit en ce moment une base navale en Afrique. Alors les travaux ont commencé, Idriss. Les travaux ne sont pas encore terminés. Cette base sera en service à la fin de l'année prochaine. Sonia Le Gourielec est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en sciences politiques et chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Expliquez-nous l'intérêt pour la Chine de construire une base militaire à Djibouti.
Alors, effectivement, ça a fait beaucoup la une de l'actualité ces derniers jours et ces derniers mois. Mais il faut d'abord rappeler que l'intérêt de la Chine pour la région n'est pas totalement nouveau, parce que le pays est très présent depuis de nombreuses années en Éthiopie, où il a construit de nombreuses infrastructures, le siège de l'Union africaine, par exemple, le tram, les routes, etc. Et cette présence aujourd'hui à Djibouti est en quelque sorte un soutien à la réémergence de l'Éthiopie, dont Djibouti constitue le cordon ombilical. Donc ça, c'est pour les aspects économiques. Mais militairement, la Chine est aussi présente dans la région puisqu'elle a déployé de nombreuses troupes au Soudan du Sud. Donc ce qui explique aussi cette présence aujourd'hui.
Alors, ce hub la Chine qui est présente au Soudan du Sud, notamment pour préserver les énergies, notamment le pétrole. Elle a besoin du pétrole sud-africain.
Et oui, effectivement.
Sud-soudanais, pardon.
Oui. Et donc, elle a déployé des troupes dans le cadre d'opérations de maintien de la paix au Soudan du Sud. Donc, elle a besoin aussi d'avoir une arrière-base que peut constituer Djibouti dans ce cadre-là. Et donc, l'installation de ce hub logistique militaire qui a été annoncé fin novembre 2015, mais toute l'année dernière, on en parlait déjà un petit peu, était prévisible pour deux raisons principales. D'une part, lorsqu'on lit le livre blanc chinois qui a été publié en mai 2015, ce livre blanc appelle à une défense active. Et cette stratégie s'est déjà exprimée en mer de Chine avec toutes les disputes territoriales qu'on connaît et dont on a entendu parler. Et Djibouti apparaît aujourd'hui aussi dans cette stratégie où l'océan Indien est vu comme une partie du Grand Pacifique hein, de façon extensive. Et Djibouti est un tremplin, une sorte de porte d'entrée dans le nord-ouest de l'océan Indien, mais aussi vers l'Afrique du Nord, de l'Est et de l'Afrique centrale. C'est une entrée aussi vers l'Afrique centrale, effectivement, pour des ressources pour notamment.
Donc des intérêts, on voit bien qu'il y a des intérêts donc économique, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas des intérêts aussi, j'ai envie de dire, si vous me permettez l'expression, la volonté de marquer à la culotte les Américains qui sont présents, justement, sur cette partie du continent africain ?
Et oui, effectivement, les États-Unis sont présents depuis 2002 à Djibouti, où c'est leur seule base sur le continent, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme initialement, et ensuite aussi dans la lutte contre la piraterie. Mais c'est pas tout à fait nouveau. Tous ces pays collaborent entre eux dans la lutte contre la piraterie depuis 2008, 2007, 2008 hein, dans la région. La Chine ne fait pas son apparition à Djibouti comme ça. Alors, c'est vrai que si on parle des États-Unis, on s'est demandé est-ce qu'ils prenaient bien cette présence. Alors, officiellement, Kerry était à Djibouti l'année dernière. Il a dit qu'il voyait de façon tout à fait bienveillante cette attention portée par des pays comme la Chine à l'Afrique et donc à Djibouti également. Et c'est vrai que dans les faits, les États-Unis auraient exprimé quand même leur mécontentement au régime djiboutien parce qu'il aurait été demandé, il leur aurait été demandé de déplacer certaines infrastructures pour faire de la place justement aux Chinois.
Ah oui, effectivement. Voilà. Donc, cette arrivée est mal perçue par les Américains. Comment réagit la France ? Vous le savez, puisque la France est présente militairement à Djibouti avec 2000 hommes. C'est d'ailleurs la principale base française en Afrique.
Alors, effectivement, la France est présente à Djibouti depuis l'indépendance de Djibouti en 77. La France a eu quelques petits... n'était pas tout à fait contente déjà quand les Américains sont arrivés en 2002. Néanmoins, elle s'y est faite. Et là, a priori, elle n'a pas dit grand-chose. Elle n'a pas vraiment les moyens, elle n'est pas en mesure d'exprimer son mécontentement puisqu'elle investit très peu actuellement à Djibouti. Et donc, elle suit plutôt la position américaine qu'elle laisse aller en avant. Mais la France a déjà accepté qu'elle n'est plus dans un tête-à-tête avec son ancienne colonie. Aujourd'hui, on n'a pas seulement la Chine et les États-Unis à Djibouti. On a une présence européenne dans le cadre de la lutte contre la piraterie, et notamment les Italiens ont une base. Les Japonais sont peut-être plus inquiets de cette présence chinoise, parce qu'ils ont des infrastructures également et des facilités sur place. On annonce l'arrivée de l'Arabie Saoudite également, dans le cadre des tensions et des conflits qu'il y a dans le Golfe. Donc Djibouti s'internationalise, c'est ça qu'il faut voir. On est vraiment dans ce contexte-là. Et la présence chinoise, finalement, les Djiboutiens n'avaient pas vraiment le choix parce que les Chinois ont investi énormément dans le pays pour la construction de ports, d'aéroports, de routes. Et donc la Chine permet à Djibouti de réaliser son ambition de devenir un hub maritime, un hub logistique, le Singapour sur la mer Rouge, comme ils disent. Mais ces infrastructures ne rapporte pas encore d'argent, et donc Djibouti n'avait peut-être pas tout à fait la possibilité de refuser cette présence militaire.
En tout cas, ce qu'on comprend bien, c'est que le développement de Djibouti est désormais lié à la Chine. Tout à l'heure, Idriss nous disait dans son introduction que cette base militaire chinoise allait accueillir 10 000 hommes. C'est un chiffre évidemment qui circule dans la presse. Il est exagéré selon vous ou pas ? 10 000 hommes, ça semble colossal. Enfin, c'est quasiment deux fois plus que les Américains, par exemple.
Alors effectivement, c'est les chiffres qu'on annonce. On n'a pas véritablement d'informations sur la question. La base devrait être du côté du nouveau port de Dorale, donc à Djibouti. Et il y aurait également des installations dans le nord du côté d'Obok, d'où on aurait demandé effectivement aux Américains de retirer des infrastructures qu'ils avaient. Oui. Donc c'est possible. J'ai également entendu parler de construction d'hôtels dans le nord de Djibouti, du côté d'Obok, pour que ce soit un lieu de villégiature pour les Chinois qui se trouvent en Éthiopie et puis pour les militaires qui sont au Soudan du Sud. Donc, beaucoup de projets, beaucoup de rumeurs. On va devoir observer ça dans les mois qui viennent.
Eh bien, merci d'avoir été avec nous, Sonia Le Gourialec, ce matin. Idriss, on a répondu à votre question, à vos questions.
Oui, très bien répondu. Merci beaucoup, Juan Gomez.
Et merci donc à Sonia Le Gourialec de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École militaire. Il est 10h30 à Paris, dans un instant le journal, et on revient dans 10 minutes. Nous allons parler ensemble des universités sur le continent africain, des grèves qui se multiplient, la grogne qui monte dans certaines universités.
Priorité santé.